Europe 1.
8h14 sur Europe 1, votre invitée Sonia Mabrouk ce matin est l'ancienne garde des Sceaux et l'actuelle maire LR du 7e arrondissement de Paris.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
On vient de l'entendre, c'est une information qu'Europe 1 dévoile ce matin. L'exécutif inquiet d'une résurgence des gilets jaunes dans ce contexte de flambée des prix d'énergie a mobilisé les services de renseignement pour mieux sentir l'ambiance sociale. Est-ce que c'est une crainte légitime? Est-ce qu'il y a un risque de retour de flamme des gilets jaunes?
Tout d'abord, moi je suis très surprise. Je pense que le gouvernement ferait mieux de mobiliser les renseignements généraux sur autre chose que d'avoir des renseignements sur un risque de gilets jaunes. S'ils ont besoin des renseignements généraux pour savoir qu'il y a une vraie colère dans le pays, s'ils ont besoin des renseignements généraux pour se rendre compte qu'une grande partie des Français a un véritable problème de pouvoir d'achat, enfin moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Moi, je suis élue locale. Alors, on va dire, oui, le 7e arrondissement de Paris. Non, parce que je suis engagée politiquement. Et donc, je fais des réunions avec les Français partout en France. J'étais il n'y a pas très longtemps avec Damien Abad à Hauteville, où nous avons rencontré des Français très en colère, et notamment sur le pouvoir d'achat.
Et résignés, dit cette note des renseignements.
Non, ils ne sont pas résignés. Voilà, je vais peut-être mieux faire que les renseignements généraux. Ils ne sont pas résignés. Ils sont très en colère, mais je pense que le bulletin de vote va être pour eux un bon moyen de justement de faire exister cette colère. Parce que beaucoup de Français, effectivement, personne n'a intérêt au retour des manifestations des gilets jaunes et à la violence à laquelle on a pu assister. Mais c'est vrai que beaucoup de Français sont pas résignés, sont très en colère, mais ils attendent avec beaucoup d'impatience l'échéance électorale pour pouvoir exprimer cette colère dans les urnes. Je les invite à le faire.
Mais c'est pas le bulletin de vote qui vous permet de boucler la fin de payer la facture d'électricité.
Quand vous voyez que ce gouvernement a besoin de se rendre compte que par l'augmentation de l'essence, qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Mais pourquoi? Parce que leur petite vie à eux a été bouleversée, parce que eux ils se rendent compte, tiens, le plein est peut-être un petit peu plus cher qu'avant. Mais vous savez qu'il y a des Français tous les jours, et depuis des mois, pour ne pas dire depuis des années, arbitrent entre quoi et quoi, Madame Mabrouk? Entre la nourriture et le chauffage, entre la nourriture et l'essence, entre la nourriture et le loyer. Voilà la réalité de la France d'aujourd'hui. La pauvreté a augmenté dans ce pays. Et la pauvreté, elle frappe qui? Les femmes d'abord et les jeunes. Quand je vois que des restaurants universitaires ne veulent pas rouvrir parce que ça n'est pas rentable économiquement et qu'on laisse sur le bord de la route des étudiants et des jeunes qui ne peuvent pas se nourrir, c'est ça la France.
Mais donc vous dites chèque énergie, chèque carburant, tout cela
c'est une
pas
politique
à la hauteur
de pouvoir d'achat. Je vais vous dire d'abord, les ouvriers, les salariés ont beaucoup souffert de la suppression des heures supplémentaires défiscalisées. Ça c'est une réalité. Tout le monde devait la rétablir, personne ne l'a fait. Et effectivement ils l'ont fait, encore une fois, en verrouillant tellement de dispositifs que ça ne se fait pas. François Hollande, je vais vous dire, on a oublié qu'il y a eu 5 ans de François Hollande. Et son mouvement à lui s'est amplifié avec ce gouvernement. Moi, je suis très en colère parce que je ne me satisfais pas de l'état de la France. On a évidemment de la violence tous les jours, des trafics en tout genre tous les jours. On a évidemment, et vous le voyez, Madame Mabrouk, vous faites des émissions là-dessus, une autorité qui est bafouée en toute impunité.
Alors justement,
tous les jours.
Pour incarner l'autorité, il y a aussi les actions et les gestes. Comment on se comporte? Braquer, Rachida Dati, une arme sur quelqu'un comme l'a fait Éric Zemmour, l'a braqué en l'occurrence sur un journaliste pour rire. C'est un humour que vous comprenez?
Je vais vous dire, ce salon, c'est le salon Millepol. C'est un salon international. Quel est ce salon? C'est un salon qui concerne la sécurité des États, et notamment la lutte contre le terrorisme. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est pas le salon du jouet. Et donc, moi, j'ai été choquée par l'image. Surtout quand on veut prétendre à devenir président de la République. J'ai été choquée par cette image, et j'ai été choquée aussi par les propos qu'il a tenus à l'encontre de Marlène Schiappa.
Il l'a traité d'imbécile.
Mais quelle honte! Mais quelle honte!
Du sexisme?
Mais de tout!
De la misogynie?
De ce qu'il est! Misogyne et sexiste. Et tout le monde dit, oui, mais elle avait qu'à pas dire. Ah bon? Donc, comme elle avait qu'à pas dire, donc on accepte qu'elle soit insultée. Eh ben, moi, je l'accepte pas. Voilà. Et moi, je vais vous dire, vous-même, les journalistes, j'entendais encore sur des plateaux en disant, oui, mais elle aurait pas dû dire, c'est elle qui a finalement.
La question, est-ce que c'est anecdotique ou révélateur
non,
de quelque chose de plus profond?
Enfin, la question, vous savez, les arguments qu'on utilise à l'encontre d'Éric Zemmour, ce sont les arguments qu'on utilisait contre Jean-Marie Le Pen. On a vu le résultat. Deuxième tour en 2002.
Mais alors,
la question qu'on doit se poser à l'encontre d'Éric Zemmour, est-il capable de diriger la France? Est-il capable de rassembler les Français? A-t-il une équipe? A-t-il une vision? C'est pas parce qu'il fait des citations à chaque phrase, des citations de gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, pour dire qu'il va être président. Donc on lui passe tout parce qu'il est cultivé.
Alors on lui passe tout. Très intéressant ce que vous dites. Vous nous dites que vous êtes choqués par cette image. Il y a un concert d'indignation depuis hier.
Oh, pas tant que ça.
Quand Éric Zemmour Il y en a quand même quelques-uns. Mais est-ce qu'il y a la même indignation quand ce dernier est menacé de mort ou grimé en Hitler par des humoristes
mais
du service public ?
Moi, je veux dire, la violence et les menaces, je ne l'accepte pour personne. Que ce soit pour Éric Zemmour ou pour quelqu'un d'autre, je ne l'accepte pour personne. Moi, j'en ai été l'objet et effectivement, je ne l'accepte pour personne. On n'est plus dans une démocratie. On n'est plus dans un état de droit. Quand effectivement, on exprime une idée, quand on exprime un engagement, quel que soit l'engagement. Mais moi, je n'accepte pas qu'on menace de mort ou de quoi que ce soit, qui que ce soit. Mais est-ce que pour autant, dans la facilité, on accepte que quelqu'un insulte une ministre de la République ? Ben non.
Il a été aussi, il vous a ciblé il y a quelques années, Éric Zemmour.
J'ai été sa première victime.
oui, avec la polémique sur les prénoms. Oui. Vous lui avez dit à l'époque d'aller se faire soigner. Vous pensez que c'est sur ce plan-là ?
Parce que je vais vous dire, je ne voulais pas répondre indéfiniment, ça devenait une obsession pour lui.
Et puis
le prénom de ma fille. Parce qu'il avait dit qu'une ministre de la République donne un prénom arabe, enfin il dit musulman, ce sont des prénoms arabes, il faut aussi peut-être lui redonner une petite leçon, c'est-à-dire que ces prénoms ne sont pas des prénoms musulmans, ce sont des prénoms arabes. En l'occurrence, c'était le prénom de maman que j'avais perdu. Peut-être que est-ce que j'ai le droit d'appeler ma fille du prénom de maman que j'ai tellement aimé, comme c'est universel, allez partout dans le monde, vous avez le prénom de votre maman, de votre grand-mère, de votre amie, c'est la vie. Et donc, à l'époque, il avait trouvé ça indigne. Et donc, voilà, donc j'avais dit cette obsession devient pathologique. Quoi.
Malgré cela, Éric Zemmour parle à une certaine partie de votre électorat, Rachida Dati, les Républicains. Il y a quelques années d'ailleurs, quand Laurent Wauquiez l'a reçu au parti, il lui a dit « Éric, tu es ici chez toi, au parti, qu'est-ce qui a changé depuis ?»
Mais non, mais on n'emploie pas les bons arguments, mais quelle est sa vision ? Comment demain il dirige la France ?
Qui n'emploie pas les bons arguments ? C'est important
mais
ce que vous dites.
Mais tout le monde, y compris à droite. Soit certains sont... Ils disent, oh là là, ils tétanisent certains, mais moi, ils ne me tétanisent pas. Ce n'est pas ma France. Enfin, je veux vous dire, Madame Mabrouk,
mais c'est quoi,
vous
votre
et
France ?
Moi, Sonia Mabrouk, oui. Sonia Mabrouk, Rachida Dati, si on est là, l'une face à face aujourd'hui sur ce plateau, c'est lié à quoi ? C'est lié. Moi, c'est une chance inouïe que m'a donnée la France et la République. C'est l'école, la République, mes parents, mon éducation, mes
c'est
valeurs.
Votre parcours républicain,
c'est mes valeurs.
Tout à fait.
Et puis du combat pour les valeurs.
Mais alors, ça veut dire qu'Éric Zemmour est anti-républicain, à vous entendre ?
Mais non, mais il veut. Moi, je pense que le séparatisme, il est de son côté. Il veut séparer la France, séparer les Français. Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir répondre à ça ? Moi, je ne veux pas qu'on sépare les Français. Moi, je veux qu'on réprime ceux qui ne respectent pas l'autorité, qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas l'état de droit. Moi, je suis extrêmement répressive et sans concession là-dessus. Mais quand même, pour les autres, ceux qui n'ont rien demandé d'autre que de travailler, de réussir, enfin qui ne gêne personne. Enfin, faut peut-être à un moment donné reprendre conscience.
Mais quand vous
des
dites à un moment donné, mais alors qui n'en prend pas conscience ? Parce que vous
tout
êtes
le monde.
Comme,
je vous dis,
vous êtes dans une campagne. Vous êtes à 50 jours, Rachida Dati, d'un congrès des Républicains.
Oui, bah justement. Là, pour l'instant, notre campagne.
Vous êtes impatiente, d'entrer en campagne.
Je vous dire. Ça va être quand la campagne va démarrer et quand je vais m'y mettre, on va y aller. Mais je veux dire, aujourd'hui, la campagne n'a pas démarré.
Mais avec quels arguments ?
Ah bon ? Bah, on n'a pas d'argument.
Non, je vous demande.
La France va bien. La France va bien. Il ne faut pas rétablir l'autorité. Il ne faut pas maîtriser l'immigration. Il ne faut pas redonner de la liberté d'entreprendre.
Une proposition
il faut pas
ce
de politique
matin.
Pénale.
Éric Ciotti dit dans le Figaro qu'il faudrait, une proposition parmi d'autres, une priorité nationale et communautaire européenne sur l'emploi, sur les allocations, sur le logement. Est-ce que ça sonne un peu préférence nationale ? Vous souscrivez à ça ?
Non, la préférence nationale, moi je n'y souscris pas. Je vais vous dire, maîtriser l'immigration, oui, c'est une réalité. Et il faut le faire. Il faudra revoir les procédures d'asile. Il faudra revoir les procédures de regroupement familial.
Maîtriser ? Vous avez Michel Barnier qui vous dit moratoire
sur
l'immigration.
Non, il n'y a pas de moratoire. Il faut revoir les critères. On a une souveraineté nationale. Il faut arrêter de tout mélanger. L'Europe n'a rien à voir là-dedans. On a encore une souveraineté sur ces sujets. Ensuite, qu'on discute au niveau européen sur une harmonisation possible, ça, c'est une chose. Mais la souveraineté, on peut encore légiférer sur ces sujets. Et donc, par exemple, aujourd'hui, la France n'expulse plus les étrangers en situation irrégulière. D'ailleurs, vous savez que M. Hollande avait
Attendez.
François Hollande a supprimé le délit de séjour irrégulier. Donc déjà, il faudrait peut-être le rétablir. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en séjour irrégulier n'est pas
Ce
en
n'est
situation
pas
illégale.
Mmh.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Aujourd'hui, évidemment, on dit les pays d'origine ne doivent pas les laisser passer consulaires pour les renvoyer. Mais je veux dire, pourquoi on ne fait pas comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, un délai de rétention beaucoup plus long. Rappelez-vous la bagarre qu'on a eue pour faire adopter 3 mois de rétention pour quelqu'un qui est en situation irrégulière, pour pouvoir l'expulser. Il faut faire comme en Allemagne ou comme en Angleterre, on est à plus de 6 mois. En Angleterre, on est presque On les garde jusqu'à l'expulsion.
Alors, vous entendez,
ils sont expulsés.
Vous êtes en campagne, Rachida Dati, il n'y a pas de doute.
Non, mais je suis. Non, mais... au bout d'un moment, il faut arrêter de dire c'est l'Europe, c'est jamais de notre faute. C'est comme Paris, c'est sale,
vous
c'est insécurisé.
Que l'Europe a
c'est, pas, c'est pas de la faute de Mme
vous
Hidalgo, c'est la faute des autres.
Ben,
parfois, je trouve que c'est un argument, c'est un prétexte. Et moi, je veux dire, et ceux qui le disent, on a été au pouvoir.
Ah oui, et vous donc, avez été députée européenne.
Oui, j'ai été députée européenne, donc je sais comment ça marche. Donc, par exemple, c'est comme les pays sûrs. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau européen, bah, par exemple, un pays, l'Allemagne, expulse les Soudanais, nous non. Et bah, nous, on devrait évidemment pouvoir expulser dans tous les pays que nous souhaitons reprendre notre destin en main sur la maîtrise des flux migratoires. Et l'Europe ne l'empêche pas.
Je vous ramène, Rachida Dati, au Congrès des Républicains. 50 jours. Je suppose que le meilleur candidat pour votre parti, c'est celui qui peut faire gagner la droite.
Bah, ça, c'est sûr.
Donc
voilà.
Vous appelez les militants à voter utile.
Les électeurs aujourd'hui de droite, ils veulent qu'on gagne. Voilà. Ils veulent que nos idées gagnent. Et donc, ils veulent que nous ayons celui qui pourra battre Emmanuel
Alors,
Macron.
Alors donc, si on regarde les sondages à l'instant T, celui qui est en capacité de gagner, en tout cas de se positionner pour le second tour, c'est...
C'est vrai que dans les sondages, Xavier Bertrand a une petite avance. Ils sont encore dans un mouchoir de poche. Mais moi, je ne veux pas... Moi, je suis légitimiste. Je l'ai toujours été, même quand j'ai été très en colère, ou parfois qu'on me marchait un peu sur les pieds. Mais je n'ai jamais trahi mon parti, ni mes valeurs, ni mes convictions. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis fidèle à ma famille politique et je souhaite, évidemment, respecter le choix de nos
D'accord,
militants
mais
et nos adhérents.
Soit les militants, Rachida Dati, votent pour celui qui est le mieux placé pour accéder au second tour et parce qu'ils ont envie que la droite
bien
gagne.
Bien sûr.
Soit les militants
soit
votent
rien
parce
du tout.
Attendez, un candidat à une stature parce qu'il n'a pas quitté le parti. Et c'est la surprise, peut-être, Michel Barnier.
Mais nous, on veut celui qui gagne. Voilà. Donc, à un moment donné, si c'est Xavier Bertrand, ce sera lui. Si c'est un autre, nous, on veut celui qui gagne.
Ou
si c'est mon voisin, ce sera mon voisin.
Donc, peu importe le candidat.
Non, mais on veut un candidat qui fasse gagner nos idées. Enfin, et qui ait quand même une colonne vertébrale, des valeurs, des convictions, et qu'on gagne. Parce qu'aujourd'hui, la campagne n'a pas commencé. On n'est pas encore sur.
Mais vous savez,
pas embarqué.
J'imagine un auditeur militant, sympathisant LR ce matin dans sa voiture, dit mais pour qui elle vote, Rachida Dati, je ne sais pas.
Moi, je vais respecter le choix des militants, mais moi, je voudrais qu'on ait le candidat qui nous fasse gagner. Attention qu'on ne soit pas pollué par autre chose que le candidat qui nous fasse gagner.
Donc vous dites
que certains.
Utile.
Moi, je veux dire, je vous vois aller, je vous vois venir.
Vous
c'est
voyez,
de dire.
Vous voyez vos camarades, surtout chez les Républicains.
Non. Mais c'est de dire, effectivement, certains avaient quitté le parti et qui reviennent pour pouvoir. S'ils nous font gagner. Moi, je suis d'accord, ils n'ont pas quitté la famille
c'est
de droite.
C'est Xavier Bertrand, mais vous ne le dites pas vraiment.
Non, mais franchement.
Mais c'est le vote utile.
Moi, je veux celui qui me fasse gagner.
Je mets un point d'interrogation à la fin de ma question. Dans le procès des sondages de l'Élysée, c'est important sur ce sujet, Rachida Dati, l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui dispose, je le rappelle, de son immunité dans le cadre de fonctions qu'il a exercées, est obligé, ordonné à témoigner. C'est un mandat d'amener. Est-ce que vous estimez qu'il est traité comme un justiciable, comme un autre ?
Alors, il y a deux aspects, si vous me laissez juste quelques instants. D'abord, il y a un aspect pratique, j'ai été magistrat, et j'ai discuté avec des magistrats hier avant-hier à ce propos. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de témoins qui sont requis dans les procès d'assises ou d'autres procès. Le mandat d'amener pour les témoins, on ne le fait plus. Pratiquement, ça ne se fait plus. Donc ça vous donne déjà le ton. Ça, c'est parce que c'est une mesure extrêmement contraignante. Le deuxième aspect, il y a un aspect de proportionnalité. Moi, je me souviens d'une affaire en 2009. Un journaliste qui ne voulait pas se présenter devant le juge a été présenté avec ce mandat d'amener, donc de manière contraignante, pour être mis en examen. Donc, il est parti à l'affaire. La chambre de l'instruction a annulé la mise en examen en disant que le mandat d'amener était une mesure disproportionnée.
Et donc, dans ce
en
cas,
raison de la peine encourue qui était
cas,
à peine
une amende. Ben,
si vous voulez, d'abord, il faut savoir aussi que Nicolas Sarkozy n'a aucune voie de recours sur ce mandat d'amener. Donc c'est quand même une atteinte à une liberté individuelle sans aucun pouvoir de recours. Mais la vraie question, elle est où la vraie question ?
Constitutionnelle ?
La vraie question, elle est constitutionnelle. Parce que c'est l'ampleur de l'immunité présidentielle. Soit on considère que toutes les décisions d'un président de la République sont couvertes par l'immunité présidentielle et donc fin de l'affaire. Soit on considère que les décisions qui sont exécutées par les collaborateurs du président de la République ne sont pas couvertes par l'immunité.
Attendez, mais ça veut dire que l'immunité dans ce cas-là tombe pour tout le monde. Enfin, pour
donc,
tous
non,
ceux
ça
qui seraient présidents.
Ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'immunité.
Oui, c'est ça.
Et donc, moi je vais vous dire, bah oui, mais ça met gravement en péril le fonctionnement de l'État. Je vous donne un exemple. Un président de la République décide d'une opération militaire dans un pays étranger. Si cette décision peut emporter des conséquences judiciaires. Je suis général, je me dis, je risque d'être mise en cause en quelques années pour crime contre l'humanité ou autre chose, je n'exécute pas la décision du président de la République.
On a compris les conséquences.
Et donc, il aurait mieux valu que les magistrats saisissent, par le biais de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel pour demander une réponse précise. Vous savez qu'il y a un débat juridique et constitutionnel aujourd'hui en cours, parce que les constitutionnalistes ne sont absolument pas d'accord entre eux sur cette question d'immunité présidentielle.
Donc, question juridique et éminemment politique, bah, évidemment, quand il s'agit de l'ancien président. Merci Rachida Dati d'avoir été notre invité ce matin.
Merci Rachida Dati, merci Sonia Mabou.